Bechem Hachem Nasevenatia, je suis bien heureux de venir pour cette première dans cette magnifique maison, Baruch Hachem, Ben Pourat Yosef, Ben Pourat Alarin. Que Akadosh Baruch Hu fasse que la lumière de la Torah elle puisse toujours briller ici, Bezrat Hachem, et dans votre quartier de Givat Mordechai. Qu'on ait le sroud de se réchauffer et de ramener, comme à l'époque de Yerushalayim où la Torah elle était, c'était la base de toute la vie, qu'on ait le mérite, Bezrat Hachem, par les sroud de tous les shiurim qu'on va faire et qu'on va essayer de commencer à étudier ensemble, Bezrat Hachem, un petit peu. Qu'on ait le mérite de ramener le Beth Amikdash, comme ça on viendra ici, tout le monde habitera là. Moi j'aurais pas besoin de faire une heure de trajet ou une heure et demie. Je serai déjà sur place à Yerushalayim avec vous, Bezrat Hachem. Que ces paroles elles soient Gaim Linishmat Avi Mori Marlo Ben Shabazora, Bezrat Hachem. Aussi pour un oncle que c'est quelque chose d'incroyable. Je savais pas, on m'a appelé aujourd'hui pour me dire que c'était son, c'est ses 11 mois. J'ai dit le Kaddish pour lui parce qu'il n'avait pas de descendant qui était pieux malheureusement. Donc j'ai fait le Kaddish pendant toute l'année et je viens d'entendre aujourd'hui que c'est les 11 mois. Donc Mina Shamayim Akadash Boku, il a été mis d'amen, il s'appelle Yitzhak Ben Simcha. Tien Nishmato, Tzfora Besfora Chaim, Bezrat Hachem. Que ce soit Gamle Nishmat pour une dame qui nous a quitté, une jeune femme qui est la femme d'un avraire de Poniovitch, un tzaddik qui s'appelle Rav Menachem Elbaz, sa femme, vous avez dû entendre parler, elle a laissé 6 orphelins malheureusement, elle est partie à l'âge de 33 ans, après une grossesse difficile et il y a eu des complications et de ça, on était à l'hôpital là-bas pour vivre les derniers moments, on a fait des tfilotes, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, l'hôpital de Tel Aviv, ça s'est rempli comme un bétamidrash, on a fait des tfilotes du fond du cœur, mais à Kadosh Baruch Hu, il a des décrets, il a des xérotes, il y a des fois où c'est marqué Dodi Arad Legano, l'Ilkot Shoshanim. Akadosh Baruch Hu, parfois il descend dans le jardin pour cueillir des fleurs, pour cueillir des roses. Parce qu'il y a des grands décrets difficiles qui sont dirigés contre l'âme Israël. Et parfois Akadosh Baruch Hu, il vient, il prend une fleur pour épargner des personnes qui pourront faire tchouva. Parce que normalement, il devrait y avoir des catastrophes et des grands cataclysmes. Et Hachem Yitbarach, il est Merachem, il a de la Rahmanout sur les membres du âme Israël. Donc il vient cueillir une Neshama Teora et Kdosha pour ne pas que plusieurs personnes, par exemple une grande quantité de personnes, elles partent, et par le mérite de cette personne qui est partie, on peut faire teshuva. Ça s'appelle Laetitia Simcha Bataisha Bezrat Hashem, que ce soit Gam Leilu Nishmata, soit Gam Leilu Nishmat Avram Ben Rivka, Gam Avram Ben Shimon. Si jamais vous avez des personnes aussi, on peut les associer, Bezrat Hashem.
Chaya Miriam
Bataziza, Bezrat Hashem, que ce soit Leilu Nishmata. Mais tous ceux qui sont partis, qui puissent reposer dans le monde de la vérité, que ce soit comme les refouach et les mains pour tous les problèmes au Israël, Bichlalam Yaakov Ben Yamna, Avram Ben Rivka, Jinaura Bat Nira, comment elle s'appelle, Simcha Chaya Bat Warda, la maman de notre ami Yoni, Nicole. Et pour tous les cholam ou Israël, Akadosh Baruch Hu, il leur donne la refoua shelema. Tous ceux qu'on n'a pas cités, ils sont inclus parce qu'Akadosh Baruch Hu, il les connaît tous. Alors il va les guérir à tous. Et Bezrat Hashem, que ce shiur, il soit pour notre teshuva shelema à nous tous. Parce que nous aussi, on a besoin de se rapprocher d'Hashem, on a besoin de zkouyot. On arrive à quelques jours de Rosh Hashanah. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ce moment tellement important qu'on s'apprête à vivre. On va passer avec Ibn Marom. Chacun un à un devant Akadosh Baruch Hu, il va juger toute l'humanité en quelques instants. Et on sait que Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il va nous juger en fonction de comment on sera à ce moment-là. Ça veut dire que Hachem, il est prêt à effacer et à oublier toute l'année qu'on a vécu et de ça. On a fait les 400 coups, on a fait des fins, des tactiques et tout ça. On s'est pas très bien comporté parfois et tout. Hachem Yitbarach, il va nous regarder, Bachar ou Sham. De la même façon qu'il a jugé Ishmael en fonction de comment il était, même si jamais il savait qu'il allait fauter dans l'avenir, Akadosh Baruch Hu, il nous juge en fonction de comment on se trouve le jour de Rosh Hashanah, ça veut dire au moment de la Tkiyat Shofar même, nous avait expliqué notre maître Rav Yosef Ben Tata, au moment de la Tkiyat Shofar, ça veut dire le moment où on a la plus grande émotion, on est le plus mitragesh de sentir qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu et tout ça, imaginez-vous à ce moment-là, ben Hachem Yitbarach, il va voir dans quel état d'esprit on se situe à ce moment-là et il va décider de tout ce qui va se passer. C'est un moment qui est redoutable, qui vivra, qui ne vivra pas, qui sait qu'il y aura de la parnassa, qui sait qu'il n'y en aura pas, qui sait qu'il y aura des enfants, qui sait qu'il n'y aura pas d'enfants, qui sait qu'il y aura du shalom bayit. Tout est décidé à ce moment-là. Si jamais on prenait vraiment conscience de ça, on devrait vraiment se renforcer et se battre. Et Baruch HaShem, cette soirée, elle va être destinée à ce qu'on se renforce tous ensemble et qu'on se prépare. Puisque comme vous savez, à l'instar de Javier Sotomayor, celui qui fait le saut en hauteur là-bas, vous le connaissez, le Cubain, qui fait les Jeux Olympiques, vous le connaissez. Un gars, quand il fait les Jeux Olympiques, plus il se présente, plus il se prépare, et plus il peut arriver à faire en sorte que quand il arrive dans la compétition, il peut se dépasser et réussir les choses qu'il va faire. De la même façon dans la Avodat Hashem, on m'a dit, plus quelqu'un il s'est préparé à un moment, plus quand il va accomplir l'action, elle va être extraordinaire et elle va être digne de louange et il va réussir le rendez-vous qu'il a fait. Et c'est pour ça que nos Chachamim nous disent que la préparation elle est plus grande que l'action elle-même. Parce qu'en fonction de comment on s'est conditionné à arriver vers cette fête, à aborder cette fête, on va pouvoir la vivre. Pour pouvoir vous illustrer un petit peu la situation dans laquelle on est, parce que comme vous savez, je vous disais tout à l'heure, on est complètement perché. Est-ce qu'on a vraiment conscience de ce qu'on s'apprête à faire, que dans moins d'une semaine on va aller se tenir devant Akadosh Baruch Hu et que tout va se décider de notre vie? Baruch HaShem, le fait qu'on soit là ce soir, c'est qu'on est conscient, un temps soit peu, mais on n'est pas vraiment conscient parce qu'on vit dans ce monde de Maboul, on travaille toute la journée, on a tous nos soucis du quotidien, on a tous nos problèmes et tout ça. Mais on n'est pas conscient exactement de qu'est-ce qu'on va faire et quel est l'enjeu et quelle est l'ampleur de ce grand événement qu'on s'apprête à vivre. Alors le Maguide de Douvna, qui était un très grand sadique, il allait de ville en ville pour aller renforcer ses frères du Ham Israël. Il a amené un machal, une allégorie, pour nous expliquer où c'est qu'on en est et qu'est-ce que c'est que tout ce mois de Elul qu'Akadosh Baruch Hu il a placé à notre disposition, ce mois d'Elul que Rav Yitzhak Blazer, le Talmid du Rav Israël Salanter, qui était le fondateur de la pensée du Moussar, de l'éthique et du travail des qualités de cœur et des midot et tout ça, c'était un génie incroyable, le Rav Israël Salanter. Il avait un Talmid à lui qui s'appelait Rav Yitzhak Blazer. Et quand il faisait petit Hataychal du Chodesh Elul, de Rosh Chodesh, c'était lui à qui on donnait, il ouvrait avec des larmes et disait: Ribono Shalulam, maître de l'univers, je te remercie pour le plus beau cadeau que tu nous as fait dans le monde, qui est ce mois d'Elul. Parce que dans ce mois d'Elul, on peut acquérir des choses qui peuvent nous sauver la vie. Et en quelques jours que constitue ce mois, on peut atteindre plus que plusieurs années qu'on aurait fait si jamais on n'avait pas ce mois d'Elul. Et la chose qu'on peut atteindre véritablement, c'est le Pachadadin et la Yirat HaMishpat. Ça veut dire d'avoir la crainte du jugement, la Yirat Shamayim. De la même façon qu'à Pessah, on doit se renforcer sur la Emouna, puisque c'est le récit de la sortie d'Égypte. C'est la Haggadah, le Lachon de Haggadah. On sait que quelqu'un qui a fait la Haggadah sans prononcer les choses, il n'est pas Yotze. Il doit prononcer les choses, parce qu'il y a une phrase dans le Beder HaRemez, dans le Tehillim de David Ameler, et Manti ki ani adaber. J'ai cru, pourquoi? Parce que j'en ai parlé. Quand on parle ensemble, on récite des choses, on se réchauffe ensemble, alors on croit. Parce qu'on réchauffe la Emouna, on ramène par ce phénomène de résilience les souvenirs qui sont ancrés dans notre Neshama, qu'on avait nos pieds qui étaient au Har Sinaï. On se rappelle de toutes ces choses-là, on voit tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour nous et tout ça. Donc il dit Rav Yecheskel Levinstein, le Majgar de Poniovitch, qui était Majgar il y a quelques années, il est Niftar maintenant depuis un bon moment. C'était une sommité extraordinaire. Il dit de même que pendant le mois de Nissan, on peut atteindre la plénitude dans la Emouna, de la même façon pendant ce mois de Iloul, on peut atteindre la plénitude dans la Yirat Shamayim. Et quelqu'un qui a de la Yirat Shamayim, alors c'est une ségoula la plus grande qui soit pour faire en sorte qu'on puisse mériter de sortir Zakai au moment du jugement. Pourquoi? Imaginez-vous quelqu'un qui arrive les jours, le monde dans les poches et tout ça au tribunal, avec, il est hautain, il est orgueilleux, il commence à claquer les portes, il fait l'américain Haltani Montada, le parrain de la mafia et tout ça, vous le connaissez, il arrive là-bas, le gars c'est un grand maboule, il commence à claquer les portes, il commence à manquer de respect au juge. Il dit, le juge quand il voit ce type arriver, avant même d'avoir ouvert son jugement, il va lui faire le délit de faciès. Et il va dire, celui-là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais on va essayer de trouver des accusations contre lui, un cahier de charges important pour faire en sorte de le... Pourquoi? Parce qu'on voit, celui-là, il arrive dans un état d'esprit où il est dans la rébellion. Mais si quelqu'un, à l'inverse, il arrive avec beaucoup d'arna, beaucoup de soumission, beaucoup de hanava et d'humilité, il prend conscience des fautes qu'il a fait, celui-là, il inspire tout de suite la miséricorde par rapport au juge qui va le juger. Il dit, c'est pour ça, on voit cette paracha qu'on vient de lire de Kitavo, il y a 98 malédictions, Rabotai, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on voit ces malédictions, on peut devenir maboule. À tel point, moi je me dis chaque fois, comment on peut lire ça le Shabbat, ça on fait Shnei Mikra Echad Targoum, le Shabbat on lit ça, c'est pas le Onek Shabbat, on se fait déchirer. Comment c'est possible qu'on a institué ça? Pourquoi la Torah, c'est dans le livre des quelques gouttes de lumière pour l'éternité que Kadosh Baruch Hu m'a donné le sroud d'écrire Baruch HaShem, vous pourrez le voir à la fin, je vous en ferai parvenir peut-être à Tachem quelques petites éditions pour que vous le feuilletez. Si jamais vous voulez le réquisitionner, je vous le ferai à bon prix, vous inquiétez pas. Et je fais un peu de marketing en même temps, parce que vous avez des bonnes têtes. Alors vous m'entendez, là-bas il y a un cours qui explique là-bas pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dû donner la Torah sur un décor de crainte. On voit le Mamad Har Sinai, c'était pas la choupa la plus romantique qu'il y avait. On voit là-bas, il y avait des tonnerres, c'était ça la musique, c'était le tonnerre, la choupa, c'était une molle de terre qui était retournée sur la tête des gens. Imagine-toi, t'arrives là-bas, après t'arrives, voilà, on te propose une fille et tout ça, on te met là-bas sous un décor de tonnerre, d'éclairs, des jeux de lumière là-bas, tu sais pas ce qui t'arrive. C'est un mariage ou c'est on comprend pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait une chose pareille. Et de la même façon, on voit la paracha là-bas, elle explique, Rashi dit que les 98 malédictions, ils ont précédé le moment où on allait faire une alliance avec Hachem. Ça veut dire que toute l'alliance des Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu, elle est fondée sur une seule chose. Sur quoi? Sur ces malédictions. C'est sur ça que l'alliance, elle s'est fondée. Pourquoi? Et on sait que les partisans de la Haskalah, de l'assimilation, qui ont décimé malheureusement encore plus de personnes que tous les pogroms réunis, on voit malheureusement dans la génération dans laquelle on est, l'assimilation, combien elle a fait de ravages, combien elle a décimé nos frères qui sont en galoute. Et même aujourd'hui en Israël, il y a des taux qui sont très alarmants et très inquiétants sur l'assimilation qu'il peut avoir. Dans certaines villes, on a dépassé les 75%, les 50% d'assimilation. C'est des choses qui sont très graves. Comment ils ont fait pour détourner les gens de la Torah? Ils ont dit, nous, on a fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et tout ça. C'est la révolution, l'abolition des privilèges, la Convention européenne des droits de l'homme en 1848 et tout ça. En 1950, ils ont fait toutes sortes de déclarations de droits. Ils disent, on en a marre qu'on vienne et qu'on nous mette le bâton et qu'on nous dise qu'est-ce qu'on va nous faire si jamais on ne fait pas les choses et tout ça. On est libre. On ne veut pas une superpuissance, c'est quelque chose auquel on va devoir se soumettre. Et c'est vrai, et c'est comme ça qu'ils ont dit, pourquoi la Torah elle est punitive, pourquoi elle est en train de nous dire, voilà, si vous ne faites pas ça, vous aurez telle et telle chose et tout ça. Et quelque chose d'incroyable, c'est que Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Nitzavim, puisqu'on est dans la juxtaposition Rashi demande comment ça se fait qu'on a juxtaposé la paracha de Kitavo de 98 malédictions avec la paracha de Nitzavim. Moshe Rabbeinu est venu devant les Bnei Israël, et même après le Mamad Har Sinai aussi, il a fait la même chose. Quand Akadosh Baruch Hu, il a semé cette grande crainte et cette grande terreur dans le cœur des Bnei Israël. Déjà, le Rambam, il répond à cette question, pourquoi ça s'est passé sous ce décor de crainte. De la même façon, on demande, Moshe Rabbeinu, il dit quelque chose qui est complètement incroyable. La réponse à la question qu'on a demandé, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a semé le trouble et la terreur dans le cœur des Bnei Israël? Parce qu'il savait que pour qu'on puisse accepter la Torah, il fallait qu'on ait de la Yirat Shamayim. C'est quoi de la Yirat Shamayim, Rabotai? Ça veut dire la crainte du ciel, qu'on a compris qu'il y a un dirigeant et qu'il y a un maître de l'univers. Il dit, les hommes, pourquoi ils veulent pas se soumettre à ça? Et pourquoi ils ont peur? Et pourquoi ils veulent pas rentrer dans cette dimension-là de la ira et de la crainte? C'est parce que eux, ils pensent que c'est des malachim. Ils n'ont pas compris que l'homme, il est constitué de deux éléments et de deux entités, du corps et de la neshama, du cheval et du cavalier. Si jamais le cavalier, tu peux le contraindre avec des bonnes paroles, avec des paroles de moussard, des paroles douces, de la philosophie, des bonnes choses et tout ça, tu peux lui dire des bonnes choses. Mais le cheval, t'as beau lui faire des cours de philosophie et tout ça, Hal Johnny Jumper et tout ça, et Lucky Luke lui parlait avec son cheval. Mais on sait bien que c'est que des dessins animés. Mais tu lui parles à ce cheval-là, il t'entend pas. Qu'est-ce qu'il peut pour faire en sorte de le contraindre? C'est la contrainte coercitive avec la force. À partir du moment où tu lui mets là-bas, Hal Walker, Texas Ranger, avec sa botte là-bas, avec son étoile, tu lui mets un petit coup là-bas dans le cou, il obéit, il comprend ce que tu lui dis, il se met au garde à vous. Il dit de la même façon, il dit pour faire en sorte qu'on puisse accepter la Torah, notre neshama, elle était kol kulo kdusha, kol kulo tahara, elle descend du kisa kavod, c'est une source de lumière extraordinaire qui n'attend que, qui aspire à Kadosh Baruch Hu, qui veut s'attacher à lui. Donc on comprend très bien que cette neshama, bien sûr qu'elle veut, mais le gouffre, par contre, ce corps qui est un cheval, si jamais on ne le contraint pas par la peur et par la terreur, alors au bout d'un moment, on ne pourra jamais réussir. Si jamais ce n'était pas la Yirat Shamayim qu'on avait, l'homme ne pourrait pas tenir et la femme non plus. Je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, dans l'Allemagne, on voit les nazis. C'était pourtant le peuple le plus civilisé du monde. C'était les gens qui laissaient jamais traîner un papier par terre, donc Eschen, Bitteschen, passer par là et tout ça. Tu rentres dans le bus, tout le monde rentre l'un après l'autre à la file indienne, je sais pas comment on appelle ça et tout ça. Personne fait attention, et tout le monde fait attention aux autres. C'est des patrons dans les sciences, des patrons dans la philosophie, des patrons dans la musique. On voit tous ces choses incroyables qu'ils ont composées, tout ça. C'était des gens d'une très très grande aristocratie et d'un niveau et d'une civilisation qui était invraisemblable. Il dit alors comment c'est possible que ces mêmes personnes-là qui étaient les gens les plus élevés par rapport à leur vertu, à leur valeur humaine et intellectuelle, ils ont été capables de faire les pires crimes contre l'humanité et d'anéantir l'homme et la dimension d'homme et de classer des hommes sous des catégories de sous-hommes et tout ça. La réponse elle est très simple, elle est donnée par Abraham Avinu quand il était à Guérar avec Avimelech. Il a pris sa femme Sarah, il lui a dit qui est cette femme, et ça il a dit c'est ma sœur. Quelque temps plus tard, il s'est aperçu que c'était pas sa sœur, que c'était bien sa femme. Ils sont venus, ils lui ont dit, et comme il a été frappé de plaies, tout ça, de lèpre et d'impuissance, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu se dévoiler à lui. Il lui a dit, si jamais tu touches cette femme, on va te donner tel hafras et tout ça, on va te donner des coups et tout ça. Alors l'autre, il est venu, Betana, il lui dit quoi? Tu m'as fait rentrer dans le boss, dans la boue. Tu m'as dit que c'était ta sœur. Il dit, pourquoi tu m'as pas dit que c'était sa femme? Écoutez bien ce qu'il a répondu à Abraham Avinu, quelque chose d'invraisemblable. Achen, assurément il n'y a pas de crainte de l'Éternel dans cet endroit-là et on me tuera à cause de ma femme. On sait que ce peuple-là de Abimelech, Melar-Gerar, c'était un peuple qui était lubrique, qui s'adonnait aux relations interdites plus que tous les autres peuples, encore plus que les Égyptiens si jamais je me souviens bien. C'est des gens qui étaient très très pervertis dans ces choses-là. Et lui il a dit, assurément il n'y a pas de crainte du ciel dans cet endroit et on me tuera à cause de ma femme. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'il n'y a pas de crainte du ciel qu'on en arrive à tuer. Ça va, quelqu'un il peut pas, ne pas craindre un Kadosh Baruch Hu mais ne pas tuer. Abraham Avinu nous révèle ici que c'est impossible et les deux choses vont de pair. Si quelqu'un il a une tava très puissante et très forte qui se réveille, qui a par exemple une convoitise de l'Otahmod sur la femme de son voisin, à ce moment-là, si jamais il n'a pas la Yirat Shamayim, il n'a pas la crainte du ciel, il ne pourra pas canaliser ses passions et ses pulsions. C'est impossible. De la même façon, quelqu'un il vient, il te fait de la corruption. Si jamais toi tu crains pas Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible que tu prennes pas cette corruption. C'est juste parce que tu as la crainte d'Hashem Yitbarach qu'à ce moment-là tu peux neutraliser les choses. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand quelqu'un il voit le Geinam qui s'ouvre sous ses pieds, à ce moment-là il peut neutraliser ce Yetzera qui est plein de feu et qui est plein de tavot et plein de passions et de pulsions, il peut nous terrasser. À partir du moment où toi tu prends conscience que tu vas voir la Yirat Shamayim, c'est la seule chose qui peut neutraliser les choses. Et c'est ce que le Rambam dit. Il dit pourquoi les Bnei Israël, quand ils sont arrivés à Mount Sinaï, on leur a fait peur? Les Bnei Israël, on leur a fait peur. Pourquoi? Parce qu'on voulait leur dire une chose. On leur a dit, mes enfants, vous allez être au degré de Navi. C'est quoi un Navi? C'est un prophète. Il parle avec Akadosh Baruch Hu, PLP, Adaber. Ça veut dire que tous les Bnei Israël qui étaient là-bas, ils sont arrivés à une darga de Navi. Vous savez ce que c'est un Navi? Un Navi, il nous dit, le Rambam, c'est quelqu'un qui n'a pas de tavot, qui n'a pas de passion et de pulsion, qui a neutralisé et écrasé toutes ses passions et ses pulsions. Et le Rambam nous dit, la seule façon de neutraliser et d'écraser toutes ses passions et ses pulsions, c'est la crainte. Si quelqu'un il a la crainte et qu'il pense à Kadosh Baruch Hu, qu'il voit Hashem Yitbarach devant lui, qu'il vit Hashem le Negzetamid, il a beau avoir son Yitzhara qui se réveillera. Si jamais il commence à lui parler, ça ne marchera pas. Si jamais il va avec l'amour, ça ne marchera pas non plus. Mais si jamais il va avec la crainte, à ce moment-là, il peut neutraliser les choses qu'il a. C'est la raison pour laquelle la Torah elle a été donnée sous ce décor-là. Et quelqu'un qui ne veut pas admettre ça, alors il devra nous donner des comptes sur le fait comment ça se fait que ce peuple le plus civilisé d'Allemagne, de la même façon. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont eu un intérêt qui était différent de celui qu'ils avaient depuis le départ, qui était l'intérêt du droit de l'homme, l'intérêt de l'égalité des droits, l'intérêt de déclaration des droits et tout ça. À partir du moment où ils ont voulu commencer à dominer le monde, ils ont fait en sorte de justifier tout leur conditionnement et toutes leurs actions par le droit positif. Ils ont modifié les lois, ils ont modifié les choses pour faire en sorte de servir leur volonté profonde. Et à ce moment-là, ils n'avaient plus de moralité. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'ils n'ont pas de crainte du ciel. Quelqu'un qui n'a pas de crainte du ciel, quelqu'un qui n'est pas dominé par une puissance transcendantale, par un Kadosh Baruch Hu qui le gouverne et qui le regarde du ciel et qui fait attention, c'est le seul garant et la seule garantie qu'on pourra toujours avoir d'aller toujours dans le Derech HaTorah et de faire en sorte toujours d'avoir un monde qui se dirigera de la meilleure façon, c'est de savoir qu'un Kadosh Baruch Hu, sa Torah, elle est immuable. Et donc la Torah, elle n'est pas fonction des intérêts du moment. Quelqu'un qui est dirigé par ses intérêts du moment, qui n'a pas de crainte du ciel, du jour au lendemain, à partir du moment où son intérêt c'est par exemple de prendre la femme d'Abraham, il dit, on ne peut pas aller avec une femme mariée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer son mari, comme ça elle ne sera plus mariée. Vous comprenez? C'est simple comme bonjour, mais c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et la majeure partie des gens qui ne veulent pas admettre ces évidences, c'est des gens qui sont balgavtan, des gens qui ont de la gava, qui ont de l'orgueil, et qui n'ont pas pris conscience des limites qu'ils avaient par rapport à eux-mêmes. Quelqu'un, la grandeur d'un homme, la grandeur d'un homme c'est de se sentir petit, la grandeur d'une femme c'est de se sentir petite, de savoir qu'on a un Yitzhara, de savoir comment il faut le gérer, de savoir qu'il faut lutter, combattre contre lui, que tout le combat d'une vie, toute la guerre qu'on a à mener, c'est justement de canaliser ses forces et en faisant en sorte justement de se sentir petit. Celui qui se sent petit c'est le plus grand du monde, mais celui qui se sent grand alors c'est la personne qui est la plus en danger dans ce monde. Et ce qu'on a du mal à comprendre, c'est ce que je voulais vous demander, mon cher Abenou. quand il entend justement ces 98 malédictions et qu'il voit que les Bnei Israël sont pétrifiés, quand Moshe Rabbeinu il voit que les Bnei Israël reçoivent la Torah au Mamad Har Sinaï et qu'Akadosh Baruch Hu il a fait ça sous un décor de tonnerre, d'éclairs et de peur, à tel point que les Bnei Israël ils se sont évanouis et se sont réveillés après par Han Nishmatam, c'est marqué la Gemara dans Maserhet Shabbat, Daf Perhet, à la page 88 là-bas, elle dit que les Bnei Israël ils se sont évanouis, après ils se sont ressuscités. Moshe Rabbeinu il vient, il dit quelque chose d'incroyable. Il leur dit, les Bnei Israël, il dit, pourquoi vous avez tellement peur? Pourquoi vous êtes si angoissés? Atem nitzavim ayam kulchem, shiftechem, shotrechem, et tout ça, il commence à leur dire, pourquoi vous avez peur, vous, les Bnei Israël? Soyez les bienvenus, on n'attendait plus que vous. Je leur faisais une petite introduction et ça en attendant que vous arriviez, parce que vous êtes les meilleurs. Alors voilà, maintenant que vous êtes là, on va vous serrer dans les bras après, ne vous inquiétez pas. Vous entendez, c'est marqué là-bas, Atem nitzavim ayam kulchem. Il dit, vous n'avez pas de quoi avoir peur, les Bnei Israël. Pourquoi il y a une juxtaposition entre ces 98 malédictions et cette paracha de Nitzavim? Il dit, les Bnei Israël, n'ayez pas peur. Voyez bien que vous êtes vivants aujourd'hui. Vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Alors, Israël, c'est l'inter, il demande, Riakadash Baruchou, il est venu pour mettre en garde les Bnei Israël et terrasser le Yetzara et le neutraliser par la crainte du ciel, comme on a expliqué depuis le début. Et Moshe Rabbeinu, il vient, il les refroidit dans leur crainte du ciel. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il vient, il leur dit, ne vous inquiétez pas, les Bnei Israël, vous voyez bien, vous êtes vivants aujourd'hui, c'est pas grave, les 90 malédictions, c'est pas très grave et tout ça. Alors, Bouddha, la réponse à cette question, elle est extraordinaire. Alors, Israël s'inter, il répond, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, par le mérite que vous avez la crainte, les manier, irato, alpenechem, les bitil, techeta, comme c'est marqué à la fin des Aseret Adiberot, tout ça dans cette paracha de Yitro et de Vaetranam, je crois. Les Mantiirato Alpenechem, afin que. Pourquoi je vous ai fait toute cette manifestation et je vous ai donné la Torah et j'ai fait ça sous un décor de crainte et de peur? Afin que la crainte du ciel ne quitte pas votre visage et que vous ne fautiez jamais. Parce que si jamais vous avez toujours un Kadosh Baruch Hu en face de vous, vous ne pourrez pas fauter. Moi, il verra Potei. La faute, c'est quoi? El Adam Potei, il a imken nirnas bourouarchtout. Disent nos mefarshim, un homme ne peut pas fauter si jamais un vent de folie n'est pas rentré dans son esprit. C'est quoi ce vent de folie? C'est une déconnexion du réseau ADSL et du câble qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Le Rav Chaim de Vologi, Nefesha Chaim, il demande une question. Il dit, comment ça se fait qu'à Kadosh Baruch Hu il a légiféré sur les choses les plus anodines de la vie? Pourquoi toi tu mets d'abord ton pied droit, ton chaussure droite, après ta chaussure gauche? Tu laisses d'abord ton chaussure gauche, après ta chaussure droite. Est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu il en a à faire quelque chose de ça? Qu'est-ce qu'il en a à faire à Kadosh Baruch Hu que tu n'enlèves pas deux habits en même temps? Pourquoi tu dois d'abord mettre tes habits par la droite et après par la gauche? Pourquoi il y a toutes sortes de détails comme ça? Et il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de la Torah parce qu'ils disent, mais on en a marre des détails et tout ça. Par contre, quand il s'agit d'envoyer un mail et que le gars il lui dit c'est strudel ou la arrobas ou la underscore ou la le tiré le petit ou le petit, il dit pas c'est un détail ici. Et pourquoi? Parce qu'il sait que son mail n'arrivera pas. Mais pour ce qui est de la Torah, ouais, ça va, c'est un détail, c'est un chavibi. Tu t'apprêtes à adresser ta prière et ta parole à Kadosh Baruch Hu. Tout est une question de détail. Mais pourquoi ce détail il a été fait? Le Nefesh HaChaim ne répond à cette question. Dit le Nefesh HaChaim, tous les mitzvot de la Torah n'ont été donnés que pour un seul but, c'est pour être beauté herbe à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire tout placer toute notre confiance en Hachem et vivre au quotidien à 100% avec Hachem. Quelqu'un qui vit dans tous les détails de sa vie, qui pense toute la journée à Kadosh Baruch Hu, qui fait toutes sortes de mitzvot et tout ça, il ne peut pas être nesir d'ato, d'Hachem Yitbarach et de la Torah. Il ne peut pas détourner son esprit, ne serait-ce qu'un seul instant, du maître de l'univers qui dirige le monde et qui dirige toutes ces choses-là. Vous comprenez? Alors comme ça on comprend. Comment quelqu'un il peut fauter? C'est quand il a oublié qu'il y avait un dirigeant dans le monde. Quand il a oublié qu'il y avait un patron, à ce moment-là il peut fauter. Mais si jamais toi tu sais à chaque instant que tu es en train de faire toutes des massim pour te souvenir qu'il y a un dirigeant, qu'il y a un directeur, que c'est le patron, Hachem Yitbarach, il est là. Mais ça c'est quoi? Alors là tu pourras jamais fauter. Mais si jamais le vent de folie il est rentré en toi, tu t'es déconnecté d'Hachem Yitbarach, à ce moment-là tu pourras fauter. Mon cher Rabbeinu il vient, il leur dit, la Torah elle vous a été donnée, pourquoi? Pour que vous ayez la crainte. Cette crainte elle a été donnée pour ne pas que vous fautiez. Parce que tant que vous allez voir Kadosh Baruch Hu en face de vos yeux, vous ne pourrez jamais fauter. Comme David HaMelech le dit, il a fait deux choses pour ne pas fauter jamais dans sa vie. Pour faire en sorte de faire tchouva, Shiviti Hashem le Negdetamid, je place toujours Hashem en face de moi, Vechatati le Negdetamid, et mes fautes seront toujours en face de mes yeux. Parce que je pourrais tirer du moussard des fautes que j'ai fait pour ne plus jamais les recommettre. Moshe Rabbeinu, il vient, il est refroidi, on ne comprend pas très bien. Rav Israël Salanter nous répond, Rabotai. Il nous dit, Rav Israël Salanter, mes chers enfants, sachez que vous n'avez pas de quoi avoir peur, vous êtes vivant aujourd'hui, leur dit Moshe Rabbeinu. Il lui dit, le fait que vous avez crainte du ciel, alors vous n'avez pas de quoi avoir peur. Parce que si jamais vous avez la crainte, vous ne pourrez jamais fauter. Il dit donc, ne vous inquiétez pas mes enfants. À partir du moment où nous voyons que vous avez la crainte d'Hachem, c'est la meilleure ségoula pour pouvoir avoir le mérite de vivre. Parce que quelqu'un qui n'a pas la crainte, comme on l'a dit dans ce tribunal, qui arrive de façon hautaine, qui arrive avec beaucoup d'orgueil, alors le juge, il va essayer de faire tout en sorte pour le casser. Mais si jamais on voit que la personne, elle arrive avec karna, avec soumission, qui vient avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'abnégation, il vient se présenter devant ce juge en lui disant qu'il a déjà regretté. Toutes les punitions qu'on nous donne, c'est pour faire en sorte de baisser la tête. Vous savez, quand on a des épreuves, des sourim, des maladies, des problèmes de shalom bayit, Akadosh Baruch Hu n'attend qu'une seule chose de nous, c'est qu'on se baisse, c'est qu'on arrive à faire profil bas. Et moi, je me parle à moi le premier, et ne croyez pas que je suis venu vous faire du moussard. Je viens me faire du moussard à moi, et Bezrat Hashem, par le trou que je renforce mes frères du Ham Israël en même temps. Ne croyez pas que je suis venu vous donner de la morale ici. Quelqu'un, il fait en sorte, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie toutes sortes d'épreuves, que ce soit des maladies, chas v'shalom, que ce soit des problèmes de couple, que ce soit des problèmes d'éducation des enfants. Pourquoi? Pour faire en sorte qu'il arrive avec soumission et arna. Nous, on se prend pour les parrains de la mafia, pour les patrons, on est les grands pachas et tout ça. Il dit Akadosh Baruch Hu, il dit, mon fils, tu sais qu'il y a un maître de l'univers qui est Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron. Il n'y a pas de patrons qui peuvent coexister et cohabiter en même temps. C'est soit Hashem Yitbarach qui dirige, soit toi qui dirige. Mais deux patrons ne peuvent pas diriger le même. Donc c'est pour ça que toutes ces épreuves, elles visent à faire en sorte que la personne, elle prenne de l'abnégation et de la soumission par rapport à Hashem Yitbarach. Il dit, c'est pour ça que quelqu'un qui arrive, la meilleure ségoula qui soit pour pouvoir mériter le jugement, d'avoir ce mérite de vivre, c'est d'arriver avec crainte. Celui qui arrive avec la crainte du jugement, avec la Yirat Shamaim, il a à peu près 99% de chances de pouvoir vivre l'année qui va suivre. Pourquoi? Parce qu'on se dit, celui-là, on n'a pas besoin de le punir, puisqu'il a déjà compris qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Pourquoi vous voulez qu'on le punisse? Toutes les punitions, elles visent à faire en sorte que la personne, elle arrive à baisser d'un ton, arrive à avoir de la nava et de la soumission pour obéir à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais si toi tu viens et que tu montres à Akadosh Baruch Hu que tu n'as pas besoin, alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de te contraindre. Pour en revenir à ce qu'on était en train de dire, le Maguid de Douvna, Mouchata Adonai, Elohenu, Elecha Olam Shakol, Niyya Bidvaro. Le Maguid de Douvna, c'était un grand Mefaresh, un grand Darshan. Il allait de ville en ville et de ça pour aller essayer de renforcer ses frères du Ham Israël. Il explique ce Maguid de Douvna quelque chose de magnifique. Il dit à quoi ressemble ce mois des Loul, c'est ce Lichot qu'Akadash Bokhu l'a mis à notre disposition et tout ça. À quoi ressemblent les 10 jours de Tshuva? À quoi ressemble tout ce mois qu'Akadash Bokhu il a dit au Bnei Israël, je vais venir à votre rencontre, je vais être à vos côtés et on peut effacer toutes les fautes, toutes les choses que vous avez fait pendant un instant. Il dit, ça ressemble à un homme. Il avait loué un appartement dans le meilleur quartier du monde et tout ça. Je sais qu'ici on fait de l'immobilier, donc si vous avez besoin, j'ai la carte de notre ami, je vous la passerai après. La virée ouverte, on lui donnera la commission après à Govodo. C'est bon. Je fais un peu de business avec vous, pour le Olam Haba bien sûr. Vous entendez? Quelqu'un, il arrive, il va se présenter. Il arrive, chaque année, il doit se présenter devant son propriétaire pour lui montrer l'état des lieux. Il fait l'état des lieux avec lui pour voir si on va reconduire le bail, est-ce qu'on va augmenter le loyer, est-ce qu'il a bien respecté les lieux et tout ça. Imaginez-vous quelqu'un, il est dans cet appartement, il a démoli tous les murs, il a arraché toutes les moquettes, il a cassé tous les tableaux, il a rendu l'appartement dans une situation calamiteuse. Ça, c'est pas, il n'y a pas que ça. Par ailleurs, il y a des amis là-bas à lui qui voulaient, parce que c'était l'appartement qui était le mieux placé dans toute la ville et c'était le meilleur appartement qui était déjà. Il y a des gens qui ont entendu cet appartement, que celui-là il le maltraitait, il dit non, on veut l'appartement et on est prêt à proposer 10 fois plus que lui dans le loyer mensuel. Et le gars il commence à trembler là, il dit non seulement j'ai démoli tout l'appartement, en plus il y a des gars qui demandent 10 fois plus. Troisième problème qui a été découvert, c'est que le type il est en cessation de paiement, il n'a plus de quoi payer de faire face à ses échéances. Et alors ces gens-là, ils s'empressent de venir le dire à ce propriétaire. Ils disent, vous savez, on le connaît celui-là et tout ça. On l'a vu là-bas, il est écrit au cadastre là-bas du registre de commerce et tout ça. Il est dangereux et tout, il n'a pas payé. Il n'a pas de quoi payer et tout ça. Alors il faut vraiment qu'on s'occupe de son matricule à celui-là. Imaginez-vous la pression dans laquelle celui-là il est. Imaginez-vous quelqu'un qui est à quelques jours de cette remise des clés là-bas où ils vont voir si ils vont reconduire le. Il peut se retrouver à la rue du jour au lendemain, il peut se retrouver sans rien, son appartement qui est le plus coté de toute la ville, il peut l'abandonner et le perdre, et il peut être dans une situation difficile. Il dit le Maguid de Douvna, un type comme ça, est-ce qu'il va attendre le jour Est-ce que celui-là, il va attendre le jour où c'est le moment d'aller se présenter devant lui? Il va arriver là-bas le jour et de ça, voilà, monsieur, bonjour, soyez le bienvenu. Regardez comment j'ai démoli votre appartement. J'espère que vous êtes content de moi. Je sais que vous allez avoir confiance en moi, vous allez me redonner. En plus, j'ai pas de quoi vous payer cette année. Et en plus, il y a des gens qui peuvent proposer 10 fois plus que moi. Donc, je sais que j'ai gagné et tout ça, c'est magnifique. Il dit quelqu'un qui ferait ça, c'est un maboule qui a même pas pris conscience de la situation dramatique, calamiteuse dans laquelle il était. C'est un fou. Qu'est-ce qu'il doit faire, celui-là? Il dit le Magid de Douvna. Magid de Douvna, Moray Berabouda, il dit que celui-là, 30 jours avant, il doit commencer à aller supplier le type, le prier de tout son cœur, se mettre à plat ventre devant lui, lui dire « Je t'en supplie, mon maître, aie pitié de moi, je vais essayer de faire des meilleures choses. Tu lui proposes un plan de restructuration de l'entreprise, tu vas commencer à faire des politiques de grands travaux dans le truc. Je suis capable de reconstruire ce que j'ai détruit, ne t'inquiète pas, j'ai des plans et tout ça, je vais faire des choses, n'ayez pas peur et tout ça, je vais faire le maximum. » Il dit Rabota, vous comprenez, celui-là il va s'investir, il va s'adonner de tout son cœur et de toutes ses forces. Il va essayer de montrer une bonne volonté pour reconstruire. Il va lui dire, voilà, j'ai retrouvé un emploi, je vais essayer d'avoir des meilleurs loyers, ça, ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez peur parce qu'on vous a dit. Et il dit, les autres, ils vous disent, ils ont 10 fois plus, mais ayez confiance en moi, je ferai le maximum. Moi, je suis tellement attaché à cet appartement, je vais vraiment faire attention pour le remettre en état de la meilleure façon qu'il soit. Imaginez-vous quelqu'un qui vient pendant 30 jours d'affilée, c'est sûr qu'il va réussir à rentrer dans le cœur et à traverser le cœur de ce propriétaire. Ce propriétaire là-bas, il n'a pas un cœur de pierre. C'est sûr qu'on peut réussir avec beaucoup de tachanonim et de supplications à faire en sorte que son cœur il va s'ouvrir et qu'il va accepter de lui reconduire ce contrat et de lui faire confiance. Lire à Boutaï, ça c'est le machal, c'est l'allégorie. Mais le nimshal, l'explication de cette allégorie, elle est moins drôle. Akadosh Baruch Hu, il nous a transmis un appartement magnifique. C'est le mieux placé du monde. C'est une neshama kdosha et tehora. Il t'a fixé une destination pour cette neshama. Il t'a dit comment tu devais l'utiliser. Qu'est-ce que t'as fait toi avec ça? T'as fait des destructions. T'as détruit beaucoup de sphères, beaucoup de monde. On a fait du lachonara. On a regardé des choses qu'on n'avait pas le droit de regarder. On a prononcé des paroles qu'on n'avait pas le droit de dire. On a écouté des paroles qu'on ne pouvait pas dire non plus. On a fait du bitul Torah alors qu'on aurait pu étudier. On n'a pas forcément bien respecté nos maris ou nos femmes, nos parents non plus. On a fait beaucoup de choses qui étaient mauvaises. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à celui qui a démoli tout son appartement. Il dit ce balabait, il t'a transmis ça, il a confiance en toi. Il t'a mis une neshama kdosha et tehora. C'est dans cet appartement-là qui est le gouffre, il t'a mis cette neshama kdosha et tehora. Toi, tu aurais pu faire en sorte de bien entretenir, de faire la lumière dans ce corps, de faire la lumière dans cet appartement, de faire quelque chose qui va pouvoir resplendir et rejaillir partout. Et tu, quoi, qu'est-ce que t'as fait? Toi, t'as fait des destructions. Rabotai, il faut savoir une chose, c'est le principe fondateur de la Kabbalah. Qu'il y a une correspondance entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Toutes les choses qu'on détruit dans la terre, on détruit dans le ciel. Chaque fois qu'on fait une avéra, on ne le voit pas avec nos yeux, mais on détruit des sphères dans le monde, on détruit des choses incroyables. C'est marqué une preuve, mais fourrage de ça. Ose shalom imrumav, ubera hamav yase shalom alinuval kolamu israel. Ça veut dire quoi? Le maître Akadosh Baruch Hu qui fait la paix, ose shalom imrumav, ubera hamav yase shalom alinu. Celui qui fait la paix dans le ciel, il fera la paix sur terre. Ça veut dire qu'en fonction des sruyotes et des mitzvot qu'on fait dans le ciel, on arrive à amener de la paix. Et s'il y a la paix dans le ciel, il y a la paix sur terre. Quand on détruit sur terre, on détruit dans le ciel, et il y a des cataclysmes et des catastrophes qui se passent. Voilà que nous, on a reçu cet appartement merveilleux qui est la Neshama, qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait confiance. Et là, on va se présenter devant le propriétaire de l'univers. Il va commencer à voir, est-ce qu'on va lui reconduire son contrat, est-ce qu'on va pas lui reconduire son contrat. Et là-bas, Mahboul qui vient, il lui dit, tu sais, celui-là, il a une association de paiement. C'est le Yetzera, le Mekatreg. Il vient, il te dit, tu sais, il a plus de quoi payer. C'est quoi le paiement? C'est pas de l'argent, c'est la Torah et les mitzvot. C'est les bonnes actions et les massim tovim et les gmini trasadim qu'on aurait dû faire pendant toute cette année. Il vient, il dit, tu sais, celui-là, il a plus de quoi faire face, il a plus de quoi payer. Il commence à nous dire ça. Il dit, Rabotai, il y a quelqu'un qui prend conscience de ça. Il y a d'autres gens, ils viennent, ils disent, oui, donnez cette neshama à quelqu'un d'autre. Il pourra peut-être mieux l'utiliser, on va pouvoir proposer encore plus de choses pour faire et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments-là? Si jamais on arrive à Rosh Hashanah et on attend d'arriver à Rosh Hashanah pour se réveiller, on est perdu d'avance, comme celui-là qui arrive le jour de, la remise des clés et tout ça, il dit voilà, écoutez, non. Il dit pendant 30 jours avant, on doit commencer à faire une nachana, une préparation. Ben Adam, Malecha, Nirdam, Kum, Kerav et Tachanonim, pourquoi tu dors mon fils? Pourquoi tu dors mon frère? Lève-toi et commence à faire des supplications. Va te présenter devant ce maître de l'univers, ce propriétaire du monde, ce balabaït qui a les clés de tout l'univers et qui peut te redonner les clés de cet appartement, qui peut te redonner l'usage de ta neshama. Et va commencer à le supplier, de lui demander pardon pour toutes les destructions que tu as faites. Propose-lui un plan de restructuration. Montre-lui, voilà, Kadosh Baruch Hu, j'ai pris des résolutions. Je vais pas prendre toutes les résolutions d'un coup parce que je pourrais pas les tenir, mais voilà, Hashem Yitbarach, j'ai décidé d'étudier une heure de plus par semaine, j'ai décidé de me renforcer dans la tzniut, j'ai décidé de me renforcer dans la tzedaka, dans la Shmirat HaLashon, je vais étudier des lois de Shmirat HaLashon avec ma femme, du Chafetz Chaim. Il y a des lois en français, Rabotai, c'est facile, chaque jour on peut avoir une Chavruta avec sa femme, on étudie ces lois-là et ça nous aide beaucoup. Je vais me renforcer dans Shmirat Enayim, à Kadosh Baruch Hu, je vais me renforcer, voilà, toutes les destructions que j'ai faites, je vais reconstruire avec la tchouva, avec les Massim Tovim, avec la volonté que j'ai de reconstruire, je sais que tu vas me pardonner. Et il dit, le Mekatreg là-bas, c'est vrai, j'ai pas beaucoup d'argent pour payer, mais l'année prochaine j'aurai plus d'argent parce que je vais faire encore plus de mitzvot et tout ça. Il dit, quelqu'un qui vient pendant 30 jours et qui verse son cœur devant Hashem Yitbarach, Shifri Kamaim, Liber, Norah Pen Hashem, verse ton, comme elle dit la Megillat Echa, verse ton cœur devant Akadosh Baruch Hu et pleure devant lui, prie devant lui, montre-lui ta bonne volonté, montre-lui que tu regrettes les choses que tu as fait et que tu vas repartir sur de nouvelles bases. Aoutaï, c'est pas la baït, il nous aime. Il veut qu'on reconduire le contrat avec nous, mais il veut pas qu'on se charge d'un passif trop lourd qu'on aura à payer, Rahman al-Islam. C'est pour ça que parfois, Kadash Boku, il voit qu'il y a des personnes, ils sont pas raouis de rester, ils voient qu'ils sont pas en progression, ils préfèrent les cueillir, alors qu'ils ont pas, ils ont moins d'avérot, ils ont moins de choses qui sont négatives. Mais si par contre, ils voient qu'on est là pour réparer, pour reconstruire, Hashem Yitbarach, c'est sûr qu'il nous redonnera les clés. Quand même on a détruit, quand même on a fait des choses qui sont négatives, quand même on n'a pas respecté la destination de ce qu'il nous a donné. Ça ressemble à quoi, vous savez, ça ressemble à quoi ce qu'on fait? Je suis désolé, parce que je vous connais pas très bien et tout ça, mais j'espère que vous m'aimez quand même, parce que moi je vous aime très fort, c'est pour ça que je suis venu, alors que je viens d'avoir un fils, il est né, Baruch HaShem, on a fait la Brit Mila avant-hier et tout ça, et ma femme elle est chez moi avec les enfants, il leur rend ma boule et tout ça, et il m'a permis de venir avec vous pour étudier, Baruch HaShem. Mais je vous dis les choses parce que je veux qu'on soit zoché, Bezrat HaShem, j'aimerais qu'on soit zoché à ce Rosh Hashanah, qu'on vive. Rabotai, on doit trembler quand on voit les xérotes cachotes contre l'âme Israël, quand on voit toutes les choses catastrophiques qu'il y a. On voit encore nos frères qui sont morts dans cet attentat. Hier ou avant-hier, on a versé des larmes pour comment des gens ils se font attraper dans un carbone à côté de Kiryat Arba, à côté de Maarat HaMakpela, de Avot Eino HaKdoshim. Et on tue des parents de 6 enfants, et on tue une femme enceinte, et on tient un jeune Khatan qui vient de se marier, et l'autre là-bas, la famille de Bétar, des Chassidim, des Gdoshim, Théorim. Rabotai, c'est la manifestation de la Midatadine, du jugement de rigueur d'Akadash Mohu. Quand on voit des choses pareilles, on doit tous trembler, on doit tous se ressaisir, on doit tous se sentir concernés par ça. On ne doit pas se faire la politique de l'autruche et de se dire « Ah, c'est bon, c'est pas tombé sur nous, donc on peut continuer à vivre. » Non, on doit se réveiller, on doit être mitoraire, on doit faire en sorte de faire Khejban en effet pour savoir pourquoi il y a eu ça sur le Ham Israël. Et si jamais j'ai entendu ça, quand l'Israël arrive, il me dit la Gmarad, dans ma Sechet, je vois de la flamette, je crois. Elle dit tous les Neshamot du Ham Israël, elles sont toutes une interaction, une interdépendance l'une avec l'autre. Ça veut dire que si jamais toi t'entends que quelqu'un il a eu un problème, tu dois faire un très bon anéfèche, bilan d'examen de conscience. Ça veut dire que tu as une part dans ce qui lui est arrivé à lui et tu dois réparer des choses pour ne pas que ça arrive encore et pour faire en sorte que peut-être que lui t'a sauvé la vie. On raconte une fois que le gendre du Chafetz Chaim il est niftar pendant la guerre, il est niftar d'une maladie et tout ça juste avant la Shoah, Abir il s'appelait. Sa fille elle est venue, elle a dit papa. Il dit, Hashem Yitbarach, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre que mon mari à prendre, à le cueillir là-bas. Hafetz Chaim lui a répondu. Il lui a dit, ma fille, c'était soit un tiers du monde qui partait, soit un échama de ton mari. Il dit, par le sroud que lui, il est parti, il a permis à un tiers du monde de ne pas partir, et peut-être par le mérite qu'ils sont encore là, ils vont faire tchouva. Et tous les mérites de cette tchouva-là, de ces personnes-là, ils reviendront à ce fils qui est parti là-bas à la fleur de l'âge et qui est remonté, malgré que c'était un kadosh elyon, c'était une misber kapara. Une expiation, un korban kapara, un misber kapara qui vient expier les fautes du Ham Israël. Rabotai, quand on voit des xérot kachot comme ça, comme cette femme qu'on a parlé tout à l'heure, qui était une très grande sadekette, qui a laissé 6 orphelins, quand on voit toutes ces choses qui sont arrivées, tous les gens qui sont malades, tous les enfants qui ont des problèmes de santé, on doit être mitorer et mitrazek, on doit sonder notre cœur, sonder nos reins, faire en sorte de se dire qu'est-ce qui fera de nous des gens meilleurs, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir proposer à Kadosh Baruch Hu un meilleur plan de restructuration de cette entreprise qu'il nous a donné. Il dit sinon ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une maison. Moi je voulais louer par exemple pour que vous fassiez une yeshiva d'été et tout ça dans cette maison, et vous venez, on fait du tarot là-bas, où on amène déjà on fait le poker là-bas. Il dit ça s'appelle un voleur, on a détourné le lieu, on a détourné la destination du lieu, de la même façon. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il t'a donné cette neshama de Shah et Teora, il t'a donné ce gouffre pour faire en sorte que cette lumière elle soit en toi et que tu puisses la faire resplendir et rejaillir à l'intérieur de ta personne, à l'intérieur de ton être, que tu puisses être une lumière pour ton entourage, que tu puisses être une lumière pour les gens, que tu puisses donner. Et toi tu viens, qu'est-ce que tu fais? Tu fais radicalement l'inverse de ce pourquoi tu es venu, c'est-à-dire tu prends et tu profites. tu t'inscris dans cette dialectique du Yetzerara. On sait que la différence entre le Yetzer HaTov et le Yetzer HaRa, le Yetzer HaTov toujours il veut donner, comme Akadosh Baruch Hu, et le Yetzer HaRa, comme le Satan, il veut toujours prendre. Il dit, quand est-ce que tu vois que tu t'inscris dans le chemin de la vie et que tu respectes ce pourquoi tu es venu? C'est si jamais tu es un donneur dans le monde. Si jamais tu t'investis pour tes frères, tu t'investis pour ta femme, tu t'investis pour tes enfants, tu t'investis pour les gens qui sont autour de toi et que tu donnes au maximum, ça s'appelle que tu fais ce pourquoi tu es venu. Et on t'a donné cet appartement magnifique. Respecte la destination de cet appartement. Hashem Yitbarak te l'a donné pour que tu fasses sa volonté. Il dit, combien on est ingrat, Rabotai? Hashem Yitbarak t'a donné une bouche. Tu sais ce que tu peux faire avec cette bouche? Il y a des gens qui ne peuvent pas communiquer avec. Il dit, toi, tu viens et tu peux dire, on vient, et nous, chacun d'entre nous, on peut dire des paroles interdites avec. Il dit, mais c'est un cadeau qu'Hachem il a donné. Ce cadeau, tu l'utilises pour aller à contre-courant de celui qui te l'a donné. C'est péché, c'est interdit. Il t'a donné des yeux. C'est ce que c'est de voir. C'est le sroud que tu as de poser tes yeux sur un texte de Torah et d'étudier des dapim de Gemara, d'étudier des rachis, des tosfot, d'étudier de la paracha, d'étudier du moussa. Est-ce que tu sais le mérite que tu as de voir tes enfants, de voir toutes ces choses-là? Est-ce qu'avec ces yeux-là, tu pourrais aller à contre-courant de ce pourquoi ils ont été créés et aller voir des choses qui sont interdites? C'est de l'ingratitude, c'est du vol manifeste. C'est sur ça qu'il faut faire, tu vois. Faire en sorte que tous les membres, Kol Haneshama Talelia Alléluia, Kol Haneshima Talelia Alléluia, tous mes membres, ils sont là pour faire ton kavod Hashem Yitbarach. Toutes mes respirations, elles sont là pour dire ta louange et pour dire ton kavod Hashem Yitbarach. Ça veut dire de faire en sorte de se donner entièrement à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le mois d'Eloul. C'est cette itorerout et cette itraskout que la personne elle doit prendre sur elle, de différer de tout le reste de l'année où on n'est pas forcément en phase et en adéquation avec ce pour quoi on a été créé. C'est pour ça que la gématria du mois d'Eloul, les rachetevot, Anil et Dodiv et Dodili. C'est le mois de Eloul. Ça veut dire quoi, Anil et Dodiv et Dodili? Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Je fais un pas vers Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il fait des pas vers moi. Si jamais je m'enfuis d'Akadosh Baruch Hu, il s'enfuit de moi. Si je me rapproche d'Hachem, il fera deux pas vers moi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui prend conscience de ça, mais ça veut dire quoi? Anil et Dodiv et Dodili. Anil et Dodili, ça veut dire que je dois m'abandonner entièrement entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire que je dois venir corps et âme et me livrer à Hachem Yitbarach. Tout le reste de l'année, c'est vrai que j'ai des limites, j'ai des choses et tout ça. Je me dis, bon, ça va, il faut respecter des barrières et des limites et je peux aller jusqu'à un certain seuil et tout ça. Mais le mois d'Eloul, on n'a plus le choix. Le mois d'Eloul, il faut se livrer entièrement, corps et âme. On se donne à Kadosh Baruch Hu, on s'offre en corban Hachem. On calcule plus à ce moment-là. On sait que c'est une question de vie ou de mort. On sait que c'est une question de quelques petits rouillots qui peuvent nous donner la vie. Ils peuvent faire en sorte qu'on pourra faire grandir nos enfants dans la Torah et les mitzvot. Qu'on aura la possibilité, la chance incroyable de pouvoir assister nos enfants dans la bar mitzvah, dans le mariage, l'amener sous la choupa. Quand on voit combien de tragédies il y a dans ce monde-là, rien n'est plus évident. On doit se réveiller, on doit se renforcer. C'est sûr qu'on doit se renforcer, se réveiller. Il n'y a pas d'évidence. Donc par rapport à ça, on doit se réveiller. Quand on entend ce début de Shiur, on pourrait tomber un petit peu dans le désarroi et dans la tristesse de se dire, voilà, c'est vrai, j'ai détruit, j'ai cassé, j'ai brisé des choses. J'ai cassé l'appartement, mais comment je vais pour reconstruire, pour rétablir les choses? Vous savez que la tchouva, elle a une vertu invraisemblable d'effacer toutes les fautes comme si jamais elles n'avaient jamais été commises. Et il y a une Gemara dans Maseret Yoma qui dit qu'il y a une différence entre la tchouva Be'ava et la tchouva Be'ira. La tchouva qui est faite par amour pour Hachem ou la tchouva qui est faite par crainte. Si quelqu'un revient vers Akadosh Baruch Hu parce qu'il a la crainte, parce qu'il a peur de prendre des tannées, qu'il a peur de se faire terrasser dans le Guinam, qu'il a peur parce qu'il est malade ou quelque chose comme ça, Akadosh Baruch Hu il vient, il lui fait table rase, il lui efface tout son casier judiciaire. Là-bas, il est fiché par la DST marocaine, par le KGB russe, par le FBI, les narcotiques et les casques bleus là-bas. Ceux-là, ils ne sont pas très dangereux, ils ne peuvent jamais te trouver. ils te cherchent partout et tout ça. Tout le monde est en train de te pister. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte de t'as changé de nom, t'as changé d'appellation. À tel point que le Rambam, il dit, imaginez quelqu'un, il s'appelait Brian, ouais. Et maintenant, il s'appelle Yaakov, le type. Si tu viens, le type dit, ah Brian, comment tu vas? Le gars, tu le retrouves avec sa barbichette et tout ça. Et après quelques années où il était à Ibiza, il dansait là-bas avec le doigt vers le haut et tout ça. Vous savez qu'il danse toujours avec le doigt vers le haut. Ce qui montre ce qui va leur arriver quand ça arrive dans le ciel. Je ne veux pas vous angoisser, mais c'est pour ça qu'il faut comme ça. Pour ça, il dit, ça va être une soirée d'enfer parce qu'ils savent exactement où ils sont. Oui, bon. Vous comprenez ce qu'il dit, le gars? Il est en train de danser et tout ça. Hey Brian, comment tu vas et tout? Il dit, Brian, c'est pas moi, moi je m'appelle Yaakov et tout ça. Il dit le type, il a changé de nom, il a changé de personne, c'est une autre Neshama, c'est une autre personne, le Gamré. À tel point que le Rambam, il dit, c'est pas le même. Il te dit, ah, mais tu te rappelles de toi? Il dit, moi, je me rappelle pas de toi, mais t'as pas le droit de mentir. Il dit, non, je me rappelle pas. J'ai fait de Chouva, j'existe plus, c'est une nouvelle personne que tu connais, là. Je te connais pas, viens, moi, je t'avais fait un peu étudier un peu de Gemara, et tout ça, viens. Et le type, il est devenu fou, tu le vois, il est différent. Il a changé. Pourquoi ? Parce que la tchouva, elle a une vertu d'effacer toutes les fautes qu'on a fait, les gamrés. Ça veut dire que ça efface, ça fait table rase de tout le casier judiciaire et quelqu'un il se retrouve sans faute comme s'il venait de naître aujourd'hui. C'est quelque chose d'invraisemblable. Ça, c'est la Gemara dans Yoma, elle dit que c'est quand quelqu'un il a décidé de faire tchouva par crainte. Mais s'il décide de faire tchouva par amour, à Bodaï, c'est encore plus incroyable. Quel est son mérite s'il fait tchouva par amour ? C'est quelque chose d'incroyable. Toutes les avérotes qu'il a fait, elles sont converties en mitzvot. C'est-à-dire que le type, il se retrouve le plus grand milliardaire du monde, du jour au lendemain, il se retrouve rentier et courtier à Wall Street, le type, c'est le parrain. Il se retrouve avec tous les scrouillards, toute la vérité qu'il a vue, il devient... Pourquoi ? Parce qu'il a fait tchouva par amour. C'est quelque chose d'incroyable. Imaginez-vous maintenant, tu vas là-bas dans une... T'étais un chauvav, là-bas, un marboule de la cité de Balzac, ouais, ou de Saint-Denis et tout ça. Je sais pas, ou de venir de Paris, souvent, ils viennent de Paris, les gars. Tu viens là-bas de la cité de Jenin, tu vois. Et toi, t'étais un voyou de grand chemin. Tu rentres là-bas dans un magasin de cristal et tout ça. Tu fais le coup de la corde à linge avec le cristal. Tu vois, vous vous rappelez le coup de la corde à linge avec Kogan. Tu le jetais dans la corde et après tu lui présentes ostensiblement ton bras pour qu'il se prenne le coup là-bas et il tombe là-bas. Toi, tu vas prendre ton bras comme ça et tu lui dis colle tout. Tu vas prendre toute l'étagère et tu vas le mettre par terre. Après, tu viens devant ce balabaït et tu dis monsieur, je vous demande pardon, je suis désolé, je recommencerai plus jamais, tout ça. Il dit, moi aussi je suis désolé, mais le plus désolé de toute l'histoire, ça va être ta carte bleue. Il fait un mois passé. Le gars, il va rentrer la carte bleue, il va le créditer, il va le débiter, il va le déchirer. Il dit, Akadosh Baruch Hu, t'as détruit. T'as détruit des choses. On ne les voit pas avec nos yeux, mais on a détruit. Chaque fois qu'on dit une parole négative, on détruit. Chaque fois qu'on a fait un regard interdit, on a détruit. On fait plein de destructions avec nos averot. C'est des choses qui sont très graves. T'as détruit plein de choses. Toi, tu viens, tu fais tchouva. On te dit pas, monsieur, passez à la caisse et tout ça, on va vous faire. Je demande pardon. Le type lui dit, mais tu demandes pardon, mais il faut que tu payes. Il dit non. La tchouva, elle te répare toutes les choses sans que tu aies besoin de payer les choses. C'est quelque chose d'invraisemblable. Ça veut dire que par le srou de ta tchouva, tu es en train de réparer tout ce que tu as détruit. Tout, ça le ramène au statut antérieur de la faute. C'est quelque chose d'incroyable. Ça, c'est un recette d'Akadosh Baruch Hu qui est extraordinaire. Et pour vous illustrer un petit peu cette chose-là, je voulais vous ramener une Gemara dans Maseret Avodah Zarah, à la page 17, Yud Zayin. Une Gemara très connue. Qui rapporte là-bas l'histoire de Eliezer ben Dourdaya. Eliezer ben Dourdaya, c'était un homme très dépravé dans les mœurs. Il a commis beaucoup de fautes avec les femmes. C'est marqué que chaque fois qu'il y avait une prostituée qui voyait le jour dans un des quartiers du monde, il traversait les océans et tous les continents pour aller à la rencontre de cette nouvelle personne. De petites vertus ou de mauvaises mœurs, chacun pourra la qualifier de la façon dont il veut. Un jour, il a entendu qu'il y avait une nouvelle femme qui était venue. Imaginez-vous quelqu'un, on sait que les relations interdites, c'est ce qui sème la plus grande destruction dans le monde. Et c'est marqué dans un passage de la Torah, le Chafetz Chaim ramenait ça dans une lettre à lui, et c'est marqué dans le livre ici, dans Parashat Pinchas, ça s'appelle le bouclier, la pudeur, le bouclier d'Israël. On avait fait un cours à Natania qui est sur internet, sur www.toradelumière.com, c'est mon site. Vous pourrez voir là-bas le shiur, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça s'appelle notre bouclier à la fin des temps. On explique là-bas le concept, c'est marqué quelque chose d'incroyable. C'est marqué que la seule fois où Akadosh Baruch Hu il menace de retirer la présence divine et la shérina du peuple d'Israël, c'est si jamais il y a de la nudité dans le clan d'Israël. C'est marqué un verset méfourage dans Parashat Kitetsé qu'on a lu il y a deux semaines. Lo yere bechayr vadavar vesham mecharecha. Ne sera pas vue la nudité dans le clan d'Israël, sinon Akadosh Baruch Hu se retirera de toi. Hashem Yitbarach, il n'a jamais dit qu'il se retirait des enfants d'Israël. Dans l'idolâtrie, c'est pas marqué. Dans le Shabbat, c'est pas marqué. Dans la Kashrout, c'est pas marqué. Ça n'en est pas moins dangereux et grave de faire des fautes dans ce domaine-là. Mais la seule fois où c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il se retire. Et quand on voit aujourd'hui les attentats, quand on voit aujourd'hui les catastrophes et les calamités qu'il y a, et les maladies et la midatadine terrible, le Chafetz Chaim disait déjà juste avant la Shoah que on voit qu'Akadosh Baruch Hu il a retiré son bouclier protecteur du Ham Israël. Pourquoi ? À cause de l'assimilation. Pourquoi ? À cause de la nudité. À cause de ces choses terribles de la génération dans laquelle on est. Avodah, cette génération dans laquelle on est, c'est une génération qui est dans une situation qui n'a jamais connu de précédent. Depuis mai 68, on voit combien on est descendu dans un degré de Touma incroyable. Dit le Rahaim Akadosh, à la fin des temps, on rentrera dans la 50e porte d'impureté. C'est quoi la différence ? En Égypte, on est dans la 49e porte d'impureté, on va rentrer dans la 50e. Dit le Rahaim, pourquoi on n'est pas rentré en Égypte dans la 50e ? Parce que sans la Torah, on n'aurait pas pu sortir de cette porte. Maintenant qu'on a reçu la Torah, on va rentrer dans la 50e porte, on est rentré déjà. Et le Shomer Emouni me dit depuis la Première Guerre mondiale, il y en a qui disent depuis mai 68. On va rentrer dans cette porte et par le srout de la Torah, par le srout de la Sinut, on pourra s'en sortir. Et c'est quoi cette épreuve de la fin des temps ? c'est l'épreuve de Shmirat Enaim et du manque de pudeur qu'il peut y avoir dans l'âme Israël. On voit comment Akadosh Baruch Hu, combien de Midat Adinia, combien de rigueur, c'est pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas attention. Combien on doit être attristé de voir comment nos enfants, nos frères, nos sœurs, ils s'habillent dans des tenues folkloriques incroyables, dans des tenues d'une légèreté et d'une... C'est honteux. Par moment, vous vous rendez compte qu'on est les Bnot Israël, qu'on est les Bnei Israël, on est les Bnei Melachim, on est les enfants d'Hachem. Est-ce que cette fille de roi, elle pourrait venir avec son Bermuda du comptoir des cotonniers, cette marboula ? C'est une jardinière là-bas ou c'est une fille de roi ? C'est comme si tu vois la jardinière, elle arrive à la réception royale et ça alors qu'elle devait mettre sa robe pourpre et tout ça là-bas avec son grignot là-bas en velours côtelé, tout ça, très beau, tout ça, très joli. Tu viens avec tes bons habits. Toi, t'arrives là-bas en Bermuda. Il dit, le videur, il te voit à l'entrée du mariage là-bas, chez la réception royale. Il dit, je suis désolé, la jardinière, elle ne travaille pas aujourd'hui. C'est la fête du roi et tout ça, on ne peut pas te recevoir. On est les enfants du roi, Abutaï, on est les enfants du roi. Et Akadosh Baruch Hu, il pleure quand il nous voit qu'on n'est pas vêtu de la façon qu'il faut. Et ça, sous le pouvoir de quoi ? C'est la libéralisation des mœurs, c'est la libération de la femme, l'égalité, tout ça entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de problème et tout ça. Abutaï, on se moque de nous, on nous prend pour des imbéciles et pour des idiots. Ça s'appelle la libération de la femme, instrumentalisation de la femme à des fins commerciales, c'est ça la libération de la femme, l'émancipation des mœurs, l'égalité entre les hommes et les femmes. La femme, c'est devenu un objet de convoitise et de séduction, c'est devenu une marchandise que tu vends pour vendre une voiture, pour vendre une maison, pour vendre une tomate, pour vendre un gel douche. Tu vois là-bas cette marboula, elle est en train de faire des pauses. Il dit, Habibi, la Torah te dit... Mensonge que la grâce, vanité que la beauté. Seule la femme qui craint l'éternel est digne de louange. C'est sur ton intériorité qu'on te juge. La pureté, la beauté d'une fille d'Israël, c'est l'intériorité qu'elle a. C'est le travail des midotes qu'elle a fait. La beauté, c'est quelque chose d'extrinsèque à la personne, d'extérieur. C'est quelque chose qui relève de l'inné. T'es né comme ça. Mais l'intériorité, les midotes te votent. La Messirut Nefesh que tu fais pour avoir de la lumière en toi et pour rejaillir par ta gentillesse, par ta douceur, par ta sympathie, par ta Messirut Nefesh pour tes enfants, par toutes les bonnes choses qui font de toi une Bat Israël théorique d'Osha. Par quel mérite ? C'est par ton mérite à toi que tu t'es battu et que tu t'es... Et c'est sur ça qu'on doit te respecter, c'est sur ça qu'on doit t'honorer. Plus tu mets ton extériorité en avant et plus ton intériorité elle est infime, plus tu caches ton extériorité et tu fais en sorte de minimiser cette approche et plus on pourra te respecter pour ton intériorité. Ça veut dire que c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je parlais avec un chauffeur de taxi récemment, un ami à moi avec qui je voyage un peu dans le pays parfois. Il m'a dit, moi, je ne suis pas très religieux, tu me connais ça depuis longtemps, tu me dis des livres Torah et tout ça, t'essayes de me réchauffer. C'est vrai, parfois j'avance un peu, j'essaie de faire des choses, mais je ne suis pas un grand religieux comme toi. C'est un indien aussi, pour vous dire. C'est le frère de Dalsim. S'il y en a qui se rappellent de Dalsim dans Street Fighter. Je vois que vous n'avez pas joué depuis longtemps. C'est pas grave. C'est le gars qui faisait les membres là-bas, qui s'allongeait, tout ça. Je savais que vous n'y attendez pas à cette feinte-là ou à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. On pourra brancher après si vous voulez. Alors vous entendez, hein ? Et dit le type, il me dit, moi, je suis choqué de voir ce qui se passe aujourd'hui. Il m'a dit, moi, pourtant, je ne suis pas très religieux, mais je vois comment les gens, ils montent dans mon taxi. Ils arrivent de freshman et de freshwoman. Ouais, freshwoman pour les femmes ou freshman pour les hommes. Vous connaissez ça, les plages de Tel Aviv. Normalement, il aurait dû avoir la freshman pour les hommes et freshwoman pour les femmes. Mais là-bas, c'est tout mélangé là-bas. Malheureusement. Il dit, il arrive là-bas, il dit, il se met même pas la serviette, il m'a dit. Il rentre là-bas dans les trucs, il s'habille même pas, il rentre là-bas, il se met derrière. Il dit, est-ce qu'il pense pas à nous qu'on est des pères de famille, et qu'on a des enfants et qu'on a des femmes ? Comment on va faire quand on va arriver chez nous après ? On va avoir des mauvaises pensées. On a vu une femme, est-ce qu'on va vouloir faire des compliments à notre femme ? Est-ce qu'on va vouloir pouvoir faire du kavod à notre femme et lui dire, ma femme, comment tu es belle, comment tu es gentille, comment tu es merveilleuse, tu es la plus belle femme du monde. Toutes les autres ne sont que des guenons à côté de toi, comme ça dit le Zohar Kadosh qu'il faut dire dans la femme. Il dit, c'est ce que t'as envie, t'as vu là-bas ta femme, tu as vu cette sadekette là-bas, elle a mis la djellaba de... Et l'autre là-bas, tu l'as vu cette marboula avec sa tenue là-bas, extravagante, zroba là-bas. Il dit, elle est en train d'être au reste, tout le shalom bayit. Et j'avais entendu d'un ami à moi, il m'avait dit, tout celui qui cause des problèmes de shalom bayit par son manque de pudeur, midak et neged midan, lui fera des problèmes de shalom bayit chez lui. Parce que toi, tu as causé que quand cette femme-là, quand ce mari va rentrer chez lui, puisqu'il a vu notre femme qui était mal vêtue et qui n'a pas respecté ce code de la pudeur, eh ben, il a trébuché et donc quand il va arriver chez lui, il sera moins chaleureux avec sa femme. Elle va le ressentir et il y aura des frictions. Eh ben, on va faire en sorte que toi aussi, on va te mettre la marloquette à la maison. Puisque toi, tu mets la marloquette chez les gens, on te la mettra chez les autres. Rabotai, la pudeur et la tsniut du Am Israël, c'est le bouclier le plus important. C'est sur ça que toute la Kedusha, elle repose sur ça. C'est pour ça qu'on a été choisi par Hachem. Rabotai, c'est quelque chose de tellement merveilleux, de tellement beau, de la pureté d'Israël, qu'on ne se mélange pas aux nations. Il m'a dit là-bas, ce Maboul là d'Indien, il m'a dit, aujourd'hui, ils font des soirées à Tel Aviv, là-bas, au Pacha, avec les cerises, vous connaissez le Pacha. Avec les cerises, à Ibiza aussi, il y a le Pacha, et c'est une succursale internationale, c'est la snif du Gainam, vous connaissez. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça, ça me fait plaisir. Ne croyez pas que je suis né à Macharib, mais les gars, moi aussi j'ai vécu dans le monde de ça, j'ai fait des tactiques et tout ça, j'ai fait des danses folkloriques et tout. Et bah, au Hachem, quand j'ai vu la lumière de la Torah, j'ai senti que j'étais le plus grand milliardaire du monde et tout ça, ça n'avait pas de valeur et ça n'avait pas de sens. C'est de la pourriture et c'est des illusions que le Yetzari essaie de nous montrer, mais on est les plus heureux du monde, Rabotai. Moi je vous dis, quand je fais un shiur de Torah, quand je vibre avec mes frères du Ham Israël et que nos Neshamot, elles se réjouissent de la lumière de la Torah. Comme quand la Torah elle a été donnée au Mont Sinaï, chaque fois qu'on peine pour l'étude de la Torah et qu'on s'investit et qu'on fait des efforts, la Torah elle se réjouit comme elle a été reçue au Mont Sinaï quand personne ne voulait la recevoir. Imaginez-vous une Kala qui ne s'est pas mariée très longtemps, elle a eu le plus beau khatan de tous les khatanim du monde. Imaginez la joie qu'elle a. C'est marqué dans nos textes que chaque fois que les Bnei Israël ils étudient la Torah elle se réjouit comme quand elle avait été donnée le jour de Hammamat Har Sinaï. C'est quelque chose d'incroyable. Alors vous comprenez. Quand on étudie la Torah, il n'y a pas quelque chose de plus extraordinaire que ça. Mais en contrepartie, je vous dis, c'est quelque chose de très difficile, cette lutte contre ce Yetzer Hara qui veut toujours nous enfouir et qui veut enlever la Kedusha et la Tara du Ham Israël. Il me disait donc, ce type-là me dit à des soirées aujourd'hui que la personne n'a pas le droit de rentrer si jamais elle est pas, si elle est habillée avec trop d'habits. Tu te rends compte où c'est que ça en arrive? Ça veut dire que c'est des soirées de plagistes en pleine ville ou en plein endroit. C'est quelque chose d'incroyable. Moi j'étais récemment dans un mariage. J'ai eu très très honte. Comment des mères de famille elles peuvent sortir comme ça? Comment un père il peut laisser sa fille sortir comme ça avec cette tenue incroyable? Comment un mari peut laisser sortir sa femme comme ça? T'as pas honte? Tu t'as pas un peu de cavote pour ta femme? Tu fais pas attention à elle? Comment tu peux la laisser sortir de cette façon? C'est pas possible. Et là quoi, Rabotai, lui dit Sarah, il nous a rendu ma boule. Il a réussi à rentrer en nous et à faire en sorte de nous faire entrer de la Touma. Parce que toute la Kedusha du Ham Israël, elle est basée sur cet éloignement à travers les relations interdites. C'est marqué Kedoshim Tiu ki Kadosh Ani Ani Hashem Elokechem. Ramban il dit, c'est quoi Kedoshim Tiu? Vous serez Kadosh parce qu'Akadosh Baruch Hu il est Kadosh. Ce que ça veut dire, c'est quoi Kadosh parce que moi je peux être à l'image de Hashem. Il dit Akadosh Baruch Hu il est Kadosh, ça veut dire moi je peux être. Ça veut dire quoi Kadosh? Kadosh ça veut dire qu'il est retiré du monde. Par quoi vous allez être kadosh? Par le fait que vous allez être retiré du monde. Les peuples des nations, ils font dans l'idolâtrie, dans les relations interdites. Et il dit, ben vous, si jamais vous tenez à distance des relations interdites, que vous ne rentrez pas dans les mauvaises mœurs, dans les mauvaises vertus, que vous n'allez pas sur cet internet qui détruit et qui déracine des choses et qui démolit des gens, avec un clic, tu peux te retrouver dans les bas-fonds du Gainam. Ton fils, il peut se retrouver dans les bas-fonds du Gainam. Avec quelques clics, tu te... Et il disait, c'est quoi la différence entre la 49e porte de Touma et la 50e porte, le Rav Samuel, le Rosh Yeshiva de Keter Shlomo? Il disait, la 49e porte de Touma, quelqu'un il devait aller à la recherche de la Touma, de l'impureté. Il dit, maintenant qu'on est rentré dans la 50e porte, c'est l'impureté qui vient à notre recherche. Moi, une fois, je marchais là-bas, j'étais à Ramat Gan pour aller à la Beit HaKnesset, j'avais ma grand-mère, elle habite là-bas et tout ça. Et là-bas, tu vois des cartes là-bas qui sont posées là-bas. À chaque endroit, tu dois marcher avec des chiens d'aveugles, des cartes de Ma'boula là-bas qui sont en train de te dire de les appeler. Il dit, les nissionotes qu'il y a dans cette génération, c'est l'Yoman qui soupare, c'est Ayom Venora. Et il dit, par quel moyen on peut réussir à faire en sorte de rester dans la Torah et les mitzvot et de se protéger, de se préserver contre le Yetzirah? C'est marqué, Barati Yetzirah, Barati Torah Tavlin, une gemara dans Masechet Kiddushin d'Aflamed Amoudbet, à la page 30, folio B. Elle dit, j'ai créé le Yetzirah, et comme remède contre ce Yetzirah, j'ai créé qu'une seule chose, c'est quoi? C'est la Torah. La Torah, c'est la seule chose qui peut nous permettre de faire tchouva, de nous tenir à distance de ce Yetzer Hara, de nous soigner contre cette maladie qui nous hante et contre cet ennemi qui veut nous éradiquer, nous déraciner de ce Olam Hazeh, du Olam Haba. Il veut nous expulser toute la vie du Yetzer Hara. Quand toi tu dors, il est réveillé, il essaie toujours de te faire en sorte de trouver des moyens pour te faire tomber. Il est redoutable, Rabotai. Quand tu sais que tu es en combat et en guerre, tu dois sortir avec tes armes. C'est quoi tes armes? Tes armes, c'est la Torah et les mitzvot. Est-ce que quelqu'un qui irait en guerre, il ira avec comme un plagiste là-bas de Freshman, avec son maillot? Il dit, tu sais que t'es en guerre dans ce monde-là, comment tu dois sortir avec tes armes? C'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot. Ah, la Torah et les mitzvot, c'est marqué Barati Torah Tavlin. Et pour les femmes, elles n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Elles ont une obligation d'étudier à la route qui sont relatives à elles-mêmes, mais elles n'ont pas de mitzvah de chiouf de limud Torah. Alors comment c'est quoi leur bouclier? J'avais entendu une fois que c'est la tzniout. Le bouclier de la femme pour lutter contre les tzara, c'est quoi? C'est la tzniut, c'est la pudeur. Une femme qui fait en sorte de faire mesirut nefesh dans cette pudeur, elle doit savoir une chose, c'est qu'elle est protégée et préservée contre le yetzara et contre tous les maux et contre toutes les maladies et contre toutes les choses, et que c'est une bénédiction extraordinaire dans son foyer. C'est une source de lumière pour ses enfants, et qu'elle peut avoir l'assurance d'avoir des enfants qui sont talmidei chachamim, qui vont dans la Torah et les mitzvot et qui suivront ce chemin, comme on raconte sur Kimchit. C'était une femme que les poutres de sa maison n'avaient pas vu ses cheveux. Elle a eu le mérite d'avoir 7 enfants Kohanim Gdolim. Les Kohanim Gdolim, Rabotai, c'est ceux qui amènent la vie dans le monde. C'est ceux qui pardonnent le Ham Israël des fautes qu'ils ont commis. Ça veut dire que par la Messirut Nefesh qu'elle a fait dans cette Tzniut extraordinaire, elle a mérité d'avoir des enfants qui ont apporté le salut à toute l'humanité. Vous imaginez la grandeur que c'est. Et le grand de Vilna, il dit dans une lettre à sa mère, il dit: maman, il dit, toi tu n'as pas besoin de mon moussard. Il dit, parce que tu as la tzniut. Et c'est quelqu'un qui a la tzniut, c'est la valeur la plus élevée de toutes les choses. Il dit, si quelqu'un il a la tzniut, alors il n'a pas besoin de moussard, parce que cette tzniut, c'est son bouclier qui le tient contre, à distance du yetzara. Et cette personne qui a cette tzniut-là, qui est une lumière pour tout ce qui l'entoure, une bénédiction pour son foyer, pour ses enfants, elle apporte la bracha, c'est la personne qui peut protéger et préserver le plus tous les gens qui sont autour d'elle. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il a dit ça à sa femme. Et une fois, j'avais entendu au nom du Baal Shem Tov, je crois, le Baal Shem Tov, il est arrivé à Istanbul, c'est Mahamoutar Rav Emmanuel Mimran, il viendra aussi vous dire des petits shiurim, Bezrat Hashem, c'est un grand sadique, et vous allez voir, il est très 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 bon. Il m'avait raconté une fois, ils sont arrivés à Istanbul, et le Baal Shem Tov, il a senti qu'il y avait une neshama de Tana. Les Tanaïm, Rabotai, c'était les gens de la Gemara, ils savaient ressusciter des morts. C'était des sommités incroyables, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme tous ces Rabbi Akiva, tous ces Gdoshelian, c'était des sommités incroyables. Il dit, il a vu qu'il y avait une Neshama de Tana. Alors ils sont venus, ils ont fait une enquête, ils ont dit, comment c'est possible qu'une Neshama de Tana, elle est revenue dans cet endroit-là? C'est impossible. Il dit, parce qu'il y avait une femme qui avait une tzniout extraordinaire, elle a eu le mérite que cette Neshama, elle vienne dans sa famille. On comprend combien c'est extraordinaire. Et à contrario de ça, on est en train de rapporter la Gemara dans Masechet Avodah Zara à la page 17, folio A, qui dit que ce Eliezer ben Dourdaya avait fauté dans les relations interdites. Donc on imagine qu'à contre-courant de la grand salaire qu'il y a à cette tzniout, il y a aussi des très très grandes punitions à ces détournements dans les choses. Et à tel point qu'Akadosh Baruch Hu dit, la seule fois où il dit « je vais me retirer de vous », ça veut dire quoi, je vais me retirer de vous? Akadosh Baruch Hu, c'est un bouclier. Les Bnei Israël, c'est une chèvre unique au milieu de 70 loups-garous. La chèvre de M. Seguin et de ça, c'est pas Gad Elmaleh qui l'a inventé, ni l'autre là-bas, le Ma'boul. C'est Akadosh Baruch Hu dans le Midrash, c'est marqué là-bas que les Bnei Israël, c'est une chèvre unique entourée de 70 loups. Tant que le berger, il garde cette chèvre, les loups, ils peuvent pas s'attaquer à lui. Et si Akadosh Baruch Hu, il retire son bouclier protecteur, on a la disposition des peuples, et c'est ce qui peut arriver à Rahman et Islam. Alors vous imaginez combien Eliezer ben Dourdaya, il avait fauté. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle prostituée, il allait à sa rencontre. Jusqu'au moment où il est parti voir une prostituée. Cette femme-là lui a dit, quand elle a fini d'avoir la relation avec elle, il y a eu un vent qui est sorti là-bas. Elle lui a dit, de même que ce vent-là, il est sorti et il ne reviendra jamais, de même toi, ta teshuva, Eliezer ben Dourdaya ne sera pas reçu par Akadosh Baruch Hu et tu ne reviendras pas dans le monde. Tu vas disparaître, tu vas être anéanti. Rabotai, quand il a pris le moussard de cette femme-là, qui était une femme de basse vertu et de basse mœurs, il s'est dit quoi? Moi, j'ai pas réussi à arriver à un niveau plus élevé qu'une femme là-bas, une mzroba, qui fait les trottoirs, va venir t'arraver ma place de cliché. Et celle-là, là-bas, cette marboula, elle va me faire du moussard, elle va venir me dire à moi des choses alors que je suis le fils d'Hachem Idbara. Je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, je suis le fils d'Hachem. Quel sroud j'ai! Je suis le représentant d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, et celle-là, là-bas, elle vient, elle me fait du moussard. Où je suis tombé? À ce moment-là, il a commencé à dire qu'il fallait qu'il revienne Bitchouva. Il a pris une décision ferme qu'il fallait qu'il revienne Bitchouva. Il arrive, il commence à faire quelque chose d'assez incroyable. Il commence à se tourner vers le ciel. Shamaim Vares Bitchouva Chaim Malay. Le ciel et la terre, demandez la miséricorde pour moi. Le ciel et la terre, il dit Ach Nevakesh Chaim Alecha Nevakesh Chaim Alenu. Avant qu'on demande de la miséricorde pour toi, on va demander de la miséricorde pour nous, parce qu'on est déjà en porte-à-faux avec Akadosh Baruch Hu, c'est marqué là-bas des versets, tout ça. Il faut qu'on se fasse pardonner, on ne peut rien faire pour toi. Après, il est venu, il leur a dit, les arbres, la lune et les étoiles, demandez miséricorde pour moi. Il dit, on ne peut pas demander miséricorde pour toi, il faut qu'on demande miséricorde pour nous. Les arbres, demandez miséricorde. De la même façon, ils lui ont dit les arbres non plus. Il a demandé à tous les éléments de la nature, il a vu qu'il ne pouvait pas compter sur personne. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, Rabotai? Il s'est assis par terre, il a mis sa tête entre ses jambes, il a pleuré jusqu'à ce que sa neshama soit remontée dans le ciel, il est mort. Rabotai, à ce moment-là, la Gemara nous dit, Yatsabat Kol, Vamra, une voix céleste est sortie, elle a décrété, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, Mouzban le Chayo Lamaba, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, donc c'était Eliezer ben Dourdaya, l'homme qui courait les prostituées, il s'est devenu Rabbi Eliezer ben Dourdaya, et c'est marqué Mouzman, il est invité au Lamaba, nous dit Tosfot dans un autre endroit de la Gemara. C'est quoi Mouzman? C'est sans le din de Geinam. Ça veut dire qu'il est aspiré directement au Gan Eden. Et je vous assure que le din du Geinam, c'est quelque chose qui est invraisemblable. Quand on voit le Shara Gemul du Ramban, et quand on est maïen un petit peu dans ce qui se passe et tout ça, la honte terrible qu'il y a, que la personne elle va revivre les moments qu'elle a vécu, et que la famille, ils vont voir tout ce qu'il a fait, qu'il va vouloir s'enfuir et qu'il ne trouvera pas d'endroit et tout ça. C'est un moment terrible. Il a eu le sroud de partir comme les grands Gdoshim et les Théorim, comme Moshe Rabbeinu qui a été aspiré directement. Il a été zoché de monter là-bas directement dans l'Olam Haba sans avoir de din de Geinam. Mouzman Nechay Olam Haba. Rabotai, comment un homme comme ça qui s'est perverti au plus haut point, il est capable de devenir Rabbi Eliezer ben Dourdaya d'une seconde à l'autre? Rabbi Yaakov Hadass, un des grands tzadikim de la génération, qui vit en exil aujourd'hui au Kotel, vous pouvez le voir parfois faire les slichot et tout ça, c'est quelqu'un d'une grande gdoucha, quelqu'un d'incroyable. Il pose plusieurs questions sur ce passage. Comment c'est possible que cet homme-là, qui était le plus perverti du monde, du jour au lendemain, il arrive à faire des tfilotes et des dmaot et des larmes qui arrivent à faire en sorte que sa neshama remonte vers Hachem? Il dit, on voit des grands gdolim de la génération qui n'arrivent pas à pleurer pour arriver à verser des larmes. Parfois même les gdoléadors, ils n'arrivent pas à verser des larmes. Comment celui-là, du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, il devient comme un kadosh et il verse toutes les larmes de son corps? Première question. Deuxième question, il est fou celui-là. Pourquoi il commence à demander de l'aide à tout le monde? Il a qu'à directement demander de l'aide, demander à Kadosh Baruch Hu qui lui pardonne. Pourquoi il vient demander à l'arbre, aux étoiles, à la lune, au ciel, à la terre? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Rabbi Yehuda Hanassi, le maître de la Mishnah, qui a compilé toutes les Mishnahs, c'était une sommité extraordinaire. Quand il a vu cette scène, Bachar Rebi, il a pleuré Rebi, et il a dit, je connais Olamo Besha Achat. Il y a des gens qui acquièrent leur part au monde futur en un instant. Et après, il a déclaré, l'Odayam le Baletchouva chez Mekablim Otam. Et là, chez Kaoulaim Rebi, ça ne suffit pas au Baletchouva qu'on les reçoit, Bitchouva, dans l'Olam Haba. En plus, on les appelle Rebi. La question qui apparaît sur ça, pourquoi Bachar Rebi? Rabbi Yehuda Hanassi, il aurait dû se réjouir. Pourquoi il est en train de pleurer maintenant? Réjouis-toi de voir ton frère qui a été zoché, il a été content, voilà, il a le mérite d'avoir été Mekabel Bitshuva. Pourquoi tu te réjouis pas de son sort? Pourquoi tu vas pleurer comme ça? Deuxième question. Donc ça, c'est ce qu'on peut demander sur Rabbi. Pourquoi il est en train de pleurer? Rabotai, la réponse à cette question, elle est incroyable. Première question, comment ça se fait que cette neshama là, qui était la plus pervertie du Ham Israël, elle devient d'une seconde à l'autre la plus élevée? Cette réponse, elle est donnée par le Harizal. Le Harizal, il dit qu'il y a un concept, qui était le plus grand maître de la Kabbalah, il dit qu'il y avait un concept de neshama jvuyot. C'est quoi une neshama jvuyot? C'est une neshama qui a été prise en captivité par les forces du mal. Parfois, une neshama, elle est tellement puissante et tellement porteuse d'une lumière intense et d'une grandeur extraordinaire par rapport à Kadosh Baruch Hu, que les forces du mal, elles viennent et elles la capturent pour la mettre dans les guerriers de l'ombre. L'armée le côté obscur de la force, vous connaissez. Il dit, il prend cette neshama là, il l'amène là-bas dans le côté obscur de la force pour s'aimer la destruction avec. Il dit, c'est Machalema d'avoir demain, ça ressemble à une neshama, à un type qui était le plus puissant de toute l'armée. On l'a pris et on l'a fait rentrer là-bas chez les ennemis. Imaginez-vous quelle destruction il va semer, quelle catastrophe il va faire. Celui-là, il va faire des catastrophes très très terribles. C'est très grave. Et bien maintenant, celui-là, on est venu, on a fait une opération commando, on l'a sauvé. Imaginez-vous le bien qu'il va faire de la même façon. Cette neshama, elle était neshama jvouya, ça veut dire que c'était une âme qui s'est perdue dans les forces du mal. Ils l'ont recruté dans cette armée, tout ça. À partir du moment où il a fait tchouva chez les mains et qu'il a commencé à se réveiller, sa neshama, elle s'est reliée à la source de vie. Maïm Chaim, à Kadosh Baruch Hu, c'est la lumière de la vie, la Torah, tout ça, c'est l'arbre de vie qui nous soutient et qui nous fait vivre. Cette neshama, elle a commencé à se réchauffer et se revigorer et se revivifier. Imaginez-vous cette puissance qu'il y avait dans le mal, combien elle a pu faire des choses dans le bien. C'est la raison pour laquelle cette neshama qui était la plus pervertie, c'était une des neshamas les plus élevées du Ham Israël, et que quand elle s'est rattachée aux sources, à la source de la vie et au faisceau de la vie, alors elle a pu arriver à faire des dmaot et des pleurs qui ont fait en sorte que cette neshama elle est remontée en faisant tchouva chez les mains et en revenant jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première réponse. je me demande juste.